Marco Douiman.
Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 6 janvier 2020. Voici les grands titres de cette grande édition, de cette mi-journée. La reprise des classes pour le deuxième trimestre de l'année scolaire, entamée ce lundi dans toutes les écoles du pays, a été reportée à Ouindéréqua dans 2 jours. Et cela en raison de l'occupation des salles de classe par les familles victimes des inondations. Les spéculations continuent sur les prix du ciment Bousséko en province Tivitoke où il est produit. Le sac est passé du prix officiel de 24 500 francs burundais à 38 000 francs. Les propriétaires des chantiers demandent aux autorités habilitées d'arrêter ce phénomène. Et en Ngozi, le prix du régime de banane est passé du simple au double alors que le prix de l'oignon, de la pomme de terre ont chuté. Notre correspondant nous donnera des explications. Et en actualité internationale, Donald Trump menace l'Irak de très fortes sanctions si les troupes américaines étaient contraintes de quitter le pays après le vote ce dimanche du Parlement irakien pour réclamer leur expulsion. Voilà pour le sommaire de ce journal.
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
Oh bonjour, les propriétaires des chantiers de construction nécessitant du ciment Bousséko grognent suite à la montée du prix de ce produit où le sac qui devait s'acheter à 24 500 francs burundais coûte aujourd'hui 38 000. Ces personnes affirment que les travaux sont paralysés et demandent aux autorités habilitées de sanctionner les commerçants spéculateurs. Alexine Dayiragidje.
Son ciment Bousséko qui connaît la montée de son prix est fabriqué en province Cibitoki, commune Rugombo sur la colline Karuama du chef-lieu de la province Cibitoki. Le sac qui devait s'acheter à 24 500 francs pour s'achète pour le moins 38 000 francs pour lorsqu'il est disponible. Certains agents de l'usine Bousséko contactés indiquent que les camions transportant le ciment Bousséko sortent tous les jours de l'usine que même les grossistes de Cibitoki en bénéficient. Certaines personnes du chef-lieu de la province Cibitoki qui contactait affirme que des fois les sacs de ciment sont déchargés dans les dépôts de ces gros sites, mais que par après d'autres camions chargent ce ciment des destinations non encore connues. Pour le moment, alors les habitants de Cibitoki qui ont des chantiers en construction grognent puisque les travaux sont paralysés suite à la montée de prix de ce produit Bousséko. Après ceux qui ont des chantiers, les propriétaires des maisons de matériaux de construction, outre que le ciment indique qu'ils enregistrent des manques à gagner puisque les produits ne sont pas alors que les chantiers de construction sont paralysés. Ces gens lésés demandent aux autorités administratives de sanctionner exemplairement ces commerçants qui font des spéculations sur le ciment Bousséko. C'est au moment où, lors de la réunion de sécurité tenue dernièrement en province de Cibitoke, le ministre de l'Intérieur, Pascal Barandagué, avait lancé un ultimatum aux autorités administratives de la province, surtout au gouverneur de Cibitoke, et à tous les administrateurs de sanctionner ces commerçants spéculateurs afin de gonfler les caisses de l'État et surtout de décourager ces commerçants spéculateurs. Depuis Cibitoke, Alexine Dairagije, Radio Isanganiro.
Merci Alexis. On rappelle également que le président de la République a déclaré que ces spéculateurs sur le prix du ciment étaient à combattre car étant des ennemis de la nation, c'était dans une émission publique en décembre dernier. On sait également des prix de certains produits agricoles de première nécessité comme la banane, dont le prix est passé du simple au double ces derniers jours en Ngozi. Une des raisons de cette flambée selon la population d'Ngozi est que des commerçants collectent cette denrée dans les collines pour la vendre à Bujumbura à un prix intéressant. Pendant ce temps, les prix de certains autres produits comme l'oignon et la pomme de terre commence à chuter. Apollinaire Mozagara.
Selon des femmes rencontrées au marché central d'Ngozi, avoir un régime de banane actuellement qui rassasie le foyer n'est pas chose facile. Un régime de banane qui, il y a un mois, coûtait 2000 francs, s'achète à 4000 voire 5000 francs. Même s'il y en a qui évoquent des vents violents qui ont endommagé pas mal de bananeraies durant cette période de précipitation, ces femmes affirment que la raison principale se trouve du côté des commerçants qui sillonnent des collines à la recherche de cette denrée alimentaire à destination de Bujumbura, pas seulement la banane. Un kilo de farine de manioc qui était à 400 francs se vend actuellement à 550 francs. Pourtant, certaines autres denrées alimentaires comme la pomme de terre, les oignons, patates douces et autres chutent de prix. Ces habitants d'Ngozi espèrent que la situation va s'améliorer car des cultures de cette saison culturelle A, comme le haricot, le maïs, la pomme de terre et autres, même s'il y en a qui ont été endommagés par de fortes pluies qui sont tombées, vont bientôt atteindre la période de récolte. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro.
Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel.
Reprise des cours ce lundi pour le deuxième trimestre de l'année scolaire 2019-2020 dans tout le pays. Toutefois, ces activités ont été reportées dans deux jours à l'école fondamentale Winerekwa de la zone Guiocha en mairie de Bujumbura en raison de l'indisponibilité des salles de classe toujours occupées par les 47 familles victimes des inondations. À l'école fondamentale Boutere les deux qui abritaient également les victimes d'inondations, on a commencé par les travaux de pulvérisation avant le déménagement de ces familles vers le bureau zonal. Reportage Elinibel Nibikira.
C'est à l'école fondamentale de Winerekwa, dans la zone de Guihosha, en commune Ntahangwa de la mairie de Bujumbura. C'est l'établissement scolaire qui abrite 47 familles. Suite aux inondations, les latrines de cette école, également utilisées par ces familles déplacées, sont débordées. Avec ces familles regroupées sur cet établissement scolaire, la reprise des cours a été reportée jusque ce mercredi. Un élève rencontré sur place dit avoir été informé de patienter en attendant que l'endroit où déménager ces familles soit disponible.
On nous a dit d'attendre pour former ou installer ces personnes et qui nous reviendront après. Nous demandons qu'on nous aide avec le matériel scolaire car pour certains, tout le matériel a été emporté lors des inondations. Il faut également trouver ou relocaliser les personnes affectées car cette période scolaire est courte.
Même les habitants se trouvant sur cette école disent attendre l'espace où ils seront déménagés.
On dit qu'on est en train de préparer des lieux de localisation au terrain. Nous attendons pour voir la suite. Ici, aucun élève ne s'est présenté.
Une femme déplacée demande quant à elle la disponibilité du matériel scolaire afin que les élèves reprennent les cours, expliquant que tout a été emporté par les pluies diluviennes.
Nos enfants sont à la maison par manque de matériel scolaire. Nous avons trouvé un abri dans le voisinage, d'autres sont ici. Nous demandons de l'aide du matériel scolaire afin que nos enfants regagnent le chemin de l'école et que d'autres puissent avoir des locaux où étudier.
À l'école fondamentale de Boutere les deux, où l'on avait également rassemblé les victimes d'inondations, les activités avaient presque commencé l'avant-midi de ce lundi après la pulvérisation des salles de classe. Les familles qui habitaient ont été acheminées provisoirement au bureau de la zone urbaine de Buterere.
Merci Eline Belani Bigira. Et le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabinda, invite la population de la commune Gihanga en province de Bouanza à la cohabitation pacifique pendant la période préélectorale, malgré leur diversité politique. Cet appel a été lancé ce samedi lors des travaux communautaires d'extension de l'école fondamentale de Ninga 2 de la zone Buringa dans cette commune. Suivez-le, il est traduit par Jean-Marie Mayonga.
Je voudrais revenir sur le bien de cohabiter dans la paix et dans la sécurité, que ce soit pendant la période pré-électorale, électorale et post-électorale. Nous devons vivre ensemble. Si toi, Nicodème, si tu habites avec Jean, étant dans différents partis politiques, il faut savoir qu'après les élections, tu ne déplaceras pas ta maison et la mettre sur ta tête et aller vivre ailleurs. Vous continuerez à vivre ensemble. Je le dis et je le répète, nous devons cohabiter malgré notre diversité, comme on le fait dans les différentes églises tous les dimanches. Un protestant va à l'église des protestants, le catholique à l'église des catholiques. Est-ce que chacun n'y va que pour prier et de son retour, il partage du sel l'un de l'autre, malgré leur diversité religieuse? Cela doit s'appliquer également dans les partis politiques. Au Burundi, nous avons accepté la démocratie, raison pour laquelle tu ne dois pas considérer ton voisin qui n'est pas de la même appartenance politique comme ton ennemi. Mais ce que tu fais, si tu veux qu'il adhère dans ton parti politique, tu lui présentes tes projets afin de te suivre. Et pour ce qui est de la cohabitation pacifique, renforcer la sécurité via les comités mixtes de sécurité, nous devons le faire tous ensemble dans la solidarité.
Et les personnes vivant avec handicap sont capables de travailler et vivre en autonomie. Certains maçons ou aides-maçons vivant avec handicap en ville de Muyinga témoignent. Pour le chef de zone Muyinga, de tels individus devraient servir de modèle à ceux qui croisent encore les bras. Dieudonné Zeyman.
Au quartier Gasseni, en ville de Muyinga, sur un chantier d'une maison, une dizaine de maçons et aides-maçons sont au service. Parmi eux, des personnes avec handicap. Tichayo François, avec des problèmes de locomotion, a décidé de chercher de l'emploi pour échapper au rythme de la mendicité. Alexis Biglimana est un maçon. Il témoigne que même si il vit avec handicap, ça n'empêche pas de travailler et gagner honnêtement le pain quotidien. Isaac Nibigira, chef de zone Muyinga, félicite toutes ces personnes qui ont décidé de quitter les riz pour chercher quoi faire en relation avec leur degré d'handicap et trouve qu'ils devraient servir de modèle à ceux qui restent les bras croisés. Ces personnes handicapées demandent une chose à la communauté, savoir qu'elles sont aptes à gagner leur vie en travaillant. Muyinga, Dieudonné, Nzeimana, Radio Isanganiro.
Actualité internationale.
Le bilan de l'attaque des Shebab contre une base militaire dans l'est du Kenya s'alourdit. L'attaque a eu lieu dimanche à l'aube. Plus tôt dans la journée, les autorités ont affirmé que 4 terroristes ont été tués et 5 complices présumés arrêtés. Ce dimanche soir, le commandement américain en Afrique, AFRICOM, a reconnu que l'attentat contre le camp Simba a fait 3 victimes américaines, un soldat et 2 contractuels du ministère de la Défense. 2 autres employés du ministère ont été blessés et évacués dans un état stable. Les Shebab ont visé la piste aérienne accolée au camp Simba, base militaire américano-kenyane près de Lamu. Les islamistes ont percé l'enceinte à l'aide d'une attaque suicide à bord d'un véhicule. Une méthode classique que les terroristes ont éprouvée en Somalie. Des réservoirs d'essence ont pris feu, une fusillade a éclaté et les Shebab ont fini par être neutralisés. Et 6 personnes sont mortes samedi dans une explosion de gaz butane dans un quartier très fréquenté de la ville de Kaduna au nord du Nigeria. Parmi les victimes se trouve le professeur Simon Malam, chef de la commission de l'énergie atomique du Nigeria. Il est mort dans l'incendie alors qu'il se trouvait chez son coiffeur dans les environs de Kaduna. L'explosion s'est produite lorsque des clients se sont rassemblés dans un magasin de gaz butane pour charger leurs bonbonnes. Selon la police locale, d'autres personnes ont été blessées et des magasins incendiés dans l'explosion. Et des millions de Nigériens utilisent le gaz butane pour la cuisson des repas. L'approvisionnement en électricité est insuffisant dans le pays. Il y a eu une prolifération de magasins vendant du gaz avec des mesures de sécurité médiocres et peu de réglementations gouvernementales. Et cela entraîne souvent des accidents mortels au Nigeria. Et hors du continent africain, Donald Trump a menacé dimanche l'Irak de très fortes sanctions si les troupes américaines étaient contraintes de quitter le pays après le vote dimanche du Parlement irakien pour réclamer leur expulsion. Pour Donald Trump, la base aérienne américaine en Irak a coûté des milliards de dollars pour que les troupes se retirent sous la contrainte et sans être remboursées. Le président américain a par ailleurs une nouvelle fois menacé Téhéran de représailles majeures en cas d'attaques iraniennes contre des installations américaines au Moyen-Orient en réponse à l'assassinat par les États-Unis du général iranien Qassem Soleimani. En effet, dans une interview accordée dimanche à CNN, un conseiller du guide suprême iranien, le général de brigade Hossein Degan, a assuré que la réponse de l'Iran à l'assassinat du général Qassem Soleimani sera assurément militaire et contre des sites militaires. Place maintenant à la chronique sport.
Radio Isanganiro, chronique sport.
Aujourd'hui, nous parlons du handball, un sport qui se joue à l'aide des mains et qui oppose 2 équipes de 7 joueurs chacune. Le président de la Fédération burundaise de handball, Félix Nzissabira, précise que le handball se joue sur un terrain de 40 mètres de longueur sur 20 de largeur. Les détails dans cette chronique sportive de Marie-Claire Cazenez.
Le handball est un sport qui se joue à l'aide des mains sur une durée d'une heure où l'équipe gagnante est celle qui marque beaucoup de buts, comme l'indique Félix Ndissabira, président de la Fédération burundaise de handball.
Le handball, c'est un jeu qui se pratique avec les mains. C'est un jeu où on se donne des passes. Une équipe est composée de 7 personnes, un gardien de but et 6 joueurs de champ. Une rencontre est composée de 2 équipes, 7 d'un côté, 7 de l'autre côté. Et une équipe qui gagne, c'est l'équipe qui marque beaucoup de buts. Le jeu de handball se pratique sur un terrain de 40 mètres sur 20.
Ce président de la Fédération burundaise de handball fait savoir que le handball trouve son origine au Danemark, tout en précisant que c'est le professeur belge de l'éducation physique connu sous Karl Schanzen qui a révolutionné ce sport en 1919.
L'origine du handball, certains disent que le handball est né à Danemark sous le nom de Hardboard en 1898. Mais aussi, il y a d'autres qui disent que le handball était appelé Hazena en Tchécoslovaquie en 1919. Karl Schellensen, professeur de l'école normale d'éducation physique de Leipzig, a créé le handball à 11 en s'inspirant du jeu féminin de Torball, c'est-à-dire balle au but.
Concernant le système d'arbitrage, Félix Nzissavira explique qu'un match de handball est arbitré par 5 arbitres avec 2 arbitres centrales.
L'arbitrage se fait avec un binôme d'arbitres. Donc c'est 2 personnes qui sont là pour faire respecter le règlement. Le règlement du handball, c'est international. Ça vient de la maison mère qui est la Fédération internationale de handball, IHF. Ils apprennent le règlement, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international. Il y a des stages qui se font ici et là, mais ils sont là à 2 personnes pour faire respecter le règlement. Et pour les pales, un chronométreur et un secrétaire qui sont là. Quelquefois, on met des commissaires de match pour voir ce qui se passe et faire un rapport.
Dans la prochaine chronique sportive, Félix Nzissavira expliquera comment le handball est organisé au Burundi et les défis auxquels font face les pratiquants burundais de ce sport.
Marie-Claire Kazeneza, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je rappelle les grands titres avant de nous séparer. La reprise des classes pour le deuxième trimestre entamée ce lundi dans toutes les écoles du pays a été reportée à l'école fondamentale Winerekwa dans 2 jours en raison de l'occupation des salles de classe par les familles victimes des inondations. Et les spéculations continuent sur le prix du ciment Bousseko en province Chibitoke où il est pourtant produit. Ce sac est passé du prix officiel de 24 500 francs burundais à 38 000 francs burundais. Les propriétaires des chantiers demandent aux autorités habilitées d'arrêter ce phénomène. Et en Ngozi, le prix du régime de banane est passé du simple au double alors que le prix de l'oignon ou de la pomme de terre ont chuté. Et en actualité internationale, vous l'avez suivi, Donald Trump menace l'Irak de très fortes sanctions si les troupes américaines étaient contraintes de quitter le pays après le vote dimanche du Parlement irakien pour réclamer leur expulsion. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Eric Ouimana. Au micro, Jean Bosco Ouimana, passez une très bonne journée.